Sud Radio, il est 18h.
Parlons vrai.
Les informations avec Florian Laffont.
Bonsoir à tous. Des investissements étrangers dans l'économie française, ils devraient se confirmer demain à l'occasion du sommet Choose France au château de Versailles, événement auquel sont conviés 180 chefs d'entreprise. Amazon devrait annoncer un investissement de plus d'1 milliard d'euros. Le géant américain compte créer 3000 emplois en CDI dans le cadre du renforcement logistique du groupe. Alors que la situation est tendue depuis plusieurs semaines sur l'île, Emmanuel Macron recevra des élus de Mayotte vendredi à l'Élysée. Il leur remettra deux projets de loi qui concernent notamment la sécurité et le développement économique. La mesure la plus polémique est la suppression du droit du sol. L'île fait face à un flux migratoire important depuis les Comores. Un homme en garde à vue après la découverte d'un corps démembré à Paris sous le pont d'Austerlitz. Il a été retrouvé dans une valise par des pompiers qui intervenaient sur un feu de poubelle. La victime serait un homme adulte. Une enquête pour meurtre est ouverte. Et puis, autre enquête ouverte après la mort d'un homme dans le Maine-et-Loire. Il participait à une rave party non déclarée qui rassemble des milliers de personnes depuis jeudi dans le village de Parnay. Il a été pris en charge suite à un arrêt cardio-respiratoire mais n'a pas survécu. L'armée israélienne annonce le début d'une nouvelle opération à Jabalia dans le nord de la bande de Gaza. Selon le communiqué de l'armée, cette opération a été lancée après des renseignements sur la présence de membres du Hamas dans cette ville. Alors que les bombardements se poursuivent sur l'enclave palestinienne, le chef de l'ONU réclame un cessez-le-feu immédiat. Les supporters du PSG interdits de déplacement à Nice mercredi pour le match en retard de la 32e journée de Ligue 1 à cause d'un risque d'affrontement entre supporters, estiment les autorités. Le PSG qui reçoit Toulouse ce soir et c'est la dernière de Kylian Mbappé sur la pelouse du Parc des Princes. Coup d'envoi à 21h. 6 autres matchs sont à suivre à la même heure. Et puis en tennis, à 2 semaines du début de Roland Garros, Novak Djokovic se retrouve éliminé dès le 3e tour du Masters 1000 de Rome. Le numéro 1 mondial a été battu par le Chilien Alejandro Tabilo, 32e mondial. Très bonne soirée à tous.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et comme chaque week-end, on est au rendez-vous sur Sud Radio pour revivre les meilleurs moments de ces 7 derniers jours avec de la télévision cette semaine. France Télévisions a annoncé la fin de sa mythique émission des chiffres et des lettres. On en a parlé chez André Bercoff. Et puis autre disparition, celle d'un homme de télé, mais surtout un homme de littérature. Personne n'a pu passer à côté de la disparition de Bernard Pivot. On en a forcément parlé chez Valérie Expert et Gilles Gansman avec notre libraire préféré, Gérard Collard, qui était à notre micro. Et puis, sujet sensible abordé chez Benjamin Glaize. C'était cette semaine avec le président qui a redit son opposition à l'inscription de la GPA dans la loi. Et à cette occasion, on a accueilli sur notre antenne un parent d'un enfant né sous GPA. C'était donc cette semaine dans le Grand Matin de Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Mais avant ça, on débute le meilleur de Sud Radio avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin ce lundi, Valérie Ayer. C'est la tête de liste macroniste aux européennes et pourtant elle est assez méconnue, on peut le dire. Elle est loin derrière le RN dans les sondages. C'était l'occasion donc de revenir avec elle sur sa campagne des européennes avec Jean-Jacques Bourdin.
Sud Radio, l'invité politique. Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Vous voulez savoir ? Alors parlons vrai ce matin avec Valérie Ayer, députée européenne, tête de liste Renaissance, Modem Horizon, aux élections européennes. Valérie Ayer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette élection européenne n'est-elle pas pour beaucoup un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ?
C'est ce que je dis aux Français dans cette campagne. Il ne s'agit pas de refaire le match de 2024. De 2022 ou de faire le match de préparer le match de 2027 comme beaucoup de mes adversaires dans cette campagne le voudraient. Non, l'enjeu il est important. On est dans un moment de bascule et les décisions que nous prendrons pour l'Europe, elles seront décisives. Donc cette élection, c'est quelle Europe on veut, dans quelle mesure on répond aux problématiques sur la lutte contre le changement climatique, sur l'immigration, sur comment on se protège dans la guerre. C'est ça l'enjeu de cette élection.
Est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent à votre meeting demain soir?
Emmanuel Macron s'impliquera dans la campagne, de toute évidence. Il s'impliquera dans la campagne au moment où il l'aura décidé.
Mais il sera là, il viendra sur scène avec vous.
Je le redis, il s'impliquera dans la campagne, assurément.
Quant à Gabriel Attal, lui aussi va s'impliquer, si j'ai bien compris, dans un débat avec Jordan Bardella. La semaine prochaine, je crois.
Le Premier ministre s'est impliqué depuis le premier jour dans la campagne, jour de mon investiture.
Donc tout va très bien.
Tout va très bien.
Vous êtes
le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement est mobilisé.
Bardella à 31, mais tout va très bien.
Alors moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite aussi haut dans les sondages. C'est une évidence. Et quand on défend l'Europe, le combat pour l'Europe, c'est aussi le combat contre l'extrême droite. Parce que l'extrême droite aujourd'hui, même si elle a apparemment de façade changé de visage, le projet, il est toujours le même. Évidemment, on ne parle plus de Brexit. Bah oui, parce que ce n'est pas très populaire et ça fait peur aux Français. Mais le projet de l'extrême droite est un projet de détricotage de l'Union européenne. C'est une évidence. C'est un projet de Frexit en pièces détachées. Et c'est un projet aussi de division de nos sociétés. Donc moi, je ne peux pas me résoudre à avoir une extrême droite si haut dans les sondages. Et puis, la campagne que je mène, je suis avec vous ce matin, mais c'est une campagne de terrain.
Oui.
C'est une campagne de terrain. Et moi, ce que je vois, c'est des Français qui commencent à se mettre dans la campagne, qui ont cette perception et cette sensibilité du besoin d'Europe. Et la dynamique, je la vois, et elle est bonne.
Bien. Besoin d'Europe. Elle est bonne, la dynamique. Nous verrons le 9 juin.
Sur le terrain.
Nous verrons sur le terrain et nous verrons le 9 juin. Parlons d'Europe. L'Europe et la Chine. Xi Jinping, le président chinois, est en France. Totalitarisme, impérialisme chinois, déportation, viol, emprisonnement, épuration des Ouïghours, des Tibétains. Est-ce que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours ou pas?
Le Parlement européen a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet à plusieurs reprises.
Qu'en pensez-vous?
Je vous le dis à titre personnel, vous l'avez décrit, quand on parle d'internement, quand on parle de stérilisation forcée, d'effacement de la langue et de la culture, c'est à la justice de faire son travail et de qualifier, mais très probablement, on peut penser qu'il s'agit d'un génocide.
La Chine commet un génocide contre les Ouïghours.
La situation des Ouïghours est insupportable. En Chine, nous avons au Parlement européen eu l'occasion à plusieurs reprises d'adopter des résolutions condamnant la situation des Ouïghours et c'est la raison aussi pour laquelle il faut avoir un dialogue de vérité avec le président chinois.
Donc l'exigence de rapport de force. Un génocide.
Je vous le redis, c'est à la justice internationale de trancher.
Vous le pensez à titre personnel.
C'est à la justice internationale de trancher. Je ne suis pas qualifiée pour ça.
Évidemment.
Je le redis, le Parlement européen a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
Oui, mais à titre personnel, vous le pensez. On est bien d'accord. Bien. Un mandat d'arrêt international doit-il être lancé contre Xi Jinping?
Là encore, Monsieur Bourdin, c'est la justice internationale qui doit faire son travail. Moi, je suis responsable politique européenne. Nous avons à plusieurs reprises eu l'occasion d'adopter des résolutions pour alerter sur la situation des Ouïghours. Et nous nous sommes mobilisés, notamment pour interdire le travail forcé. Nous avons adopté une législation il y a quelques semaines au Parlement européen. Et c'est aussi l'une des réponses que nous pouvons... C'est l'un des leviers d'action que nous pouvons avoir au niveau européen.
La Chine envahit l'Europe avec ses véhicules électriques, ses panneaux solaires, ses biens d'équipement, ses éoliennes. L'Europe doit-elle taxer plus fortement les produits chinois, mettre en place des quotas d'importation et des barrières douanières? Oui ou non?
On a été trop naïfs avec la Chine pendant trop
l'Europe
de temps.
Naïve,
mais de manière
naïve.
Mais de manière générale, pendant longtemps, l'Europe a été ouverte aux 80. On considérait que le commerce international allait garantir la paix dans le monde. On voit que ça n'est pas le cas. On a découvert à l'occasion de la crise sanitaire...
Mais plus personne ne respecte les règles du commerce international. Ni les Chinois, ni les Américains.
Ni les Américains. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. On a découvert à l'occasion de la crise sanitaire, de manière assez brutale, qu'on était dépendant de la Chine, ou par exemple de l'Inde, en tout cas de l'Asie, pour nos médicaments, par exemple. Et on voit que, il y a quelques années... L'Europe a été naïve à tel point qu'elle a sapé sa propre filière du photovoltaïque en laissant notre marché inondé par des panneaux photovoltaïques chinois sursubventionnés. Mmh. Aujourd'hui, on est en train de changer de braquet. La Chine avait acheté, on avait laissé acheter le port du Pirée en Grèce par la Chine. On a entre-temps changé de braquet, on a mis en place un mécanisme de filtrage des investissements étrangers pour s'assurer que sur les biens qui sont stratégiques pour l'Union européenne, on puisse avoir un droit de regard. On a mis en place pendant longtemps, il y avait pas de, et là il faut encore qu'on y travaille, mais il n'y avait pas nécessairement de réciprocité dans l'accès aux marchés publics. C'est-à-dire qu'on laissait les Chinois accéder à tous nos marchés publics sans réciprocité. On est en train de changer la donne avec une nouvelle législation en la matière. Sur les voitures électriques, nous avons demandé à l'Europe d'engager une enquête pour vérifier, parce qu'on respecte le droit international, nous, pour s'assurer, pour vérifier si oui ou non les voitures chinoises sont sursubventionnées. Mon sentiment, il est assez clair, je pense que l'enquête arrivera à un oui.
Donc ça veut dire qu'il faut...
Oui. Il faut engager le rapport de face. Je suis favorable à ce que l'enquête aille jusqu'au bout.
Oui.
Et en fonction à ce qu'on mette en place des mesures tarifaires pour aussi protéger
donc
notre industrie.
Les droits de douane.
Je pense qu'il faut qu'on mette
comme
en place un bouclier commercial, européen, c'est-à-dire réciprocité, préférence européenne, et oui, en cas d'agression commerciale de la part de partenaires, entre guillemets, eh bien, nous devons assumer et avoir des tarifs douaniers qui soient aussi qui permettent de lutter et de contrer ces agressions. Bien sûr.
Vous parliez d'Europe puissance. Europe puissance, une Europe plus puissante, est-ce une Europe fédérale?
Alors le mot fédéral est un gros mot en France
que
parfois.
Que personne n'emploie.
Si
que
vous me demandez, si vous me demandez,
Valérie Ayer,
si vous me demandez s'il faut davantage, s'il faut, la difficulté, il y a deux gros mots.
C'est un gros mot.
Laissez-moi terminer. Il y a deux gros mots en France.
Oui.
Libéralisme et fédéralisme.
Oui.
Qui sont perçus par certains.
Non, moi, je il y a deux gros mots en France.
Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Si, on peut parler du libéralisme après, si le fédéralisme, c'est vouloir davantage d'intégration européenne, c'est transférer davantage de compétences à l'Union européenne. Par exemple, sur la question de la santé. On l'a fait à l'occasion de la crise sanitaire.
Bien
la santé n'était pas une compétence européenne.
Sûr.
Avec la crise sanitaire, les États se sont organisés, on a transféré, on a demandé à l'Europe de s'occuper de la stratégie vaccinale. Si être fédéraliste, c'est appeler à sortir de la règle de l'unanimité sur certaines décisions qui créent des blocages et qui offrent des opportunités de veto à un certain nombre de responsables politiques. Si être fédéraliste, c'est vouloir avancer sur une défense européenne commune, soutenir nos industries européennes de la défense. Si c'est accélérer ensemble sur l'innovation et sur ce que doit être l'Europe demain en matière d'intelligence artificielle, alors oui, je suis fédéraliste.
Jean-Jacques Bourdin et son invité politique, c'est tous les jours entre 8h30 et 9h sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Et évidemment, on aura la chance de le retrouver à nouveau ce lundi sur Sud Radio. Dans quelques instants, restez avec nous, on va parler littérature à travers la disparition du grand Bernard Pivot, celui qui avait amené la dictée à la télévision, mais aussi avec une émission mythique qui s'en va et qui était sur le service public depuis plus d'une cinquantaine d'années. Des chiffres et des lettres, on en parle dans un instant dans Berkov dans tous ses états.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Eh oh, enlevez votre casque de vélo, vous êtes dans une piscine là.
Oui, mais en ce moment avec Esso, on peut gagner un vélo électrique par jour. Alors faut se tenir prêt.
Et comment on participe?
Ah bah allez sur ecomobilité-jeesso.fr.
Ok, merci.
Conditions sur ecomobilité-jeesso.fr du 1er mai au 31 août 2024. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Pourquoi communiquer sur Sud Radio? Tout simplement parce que c'est la radio qui fait partie de mon quotidien. Et celui de millions de personnes aussi. Alors ça m'a paru évident.
Frappez un grand coup. Communiquez sur Sud Radio partout en France pour faire connaître votre marque, votre activité, vos produits, vos événements. Notre équipe est là pour vous conseiller. Régie@sudradio.fr.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite? J'hallucine. Grave.
accident.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous n'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
Sarenza.com. Sarenza.com. Sarenza.com vous gâte. En ce moment, profitez de démarques exceptionnelles sur une large sélection de chaussures, vêtements, accessoires les plus stylés. Pardon, je chante, mais j'ai une soirée karaoké ce soir, donc je m'entraîne, quoi. Allez, jingle!
Sarenza.com.
Voir conditions sur le site.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
J'espère que vous profitez à fond de votre week-end prolongé Sud Radio avec vous à n'importe quel instant de la journée, notamment sur les applications hein, pour nous écouter si vous partez loin de la maison. Et puis bah, ça se passe aussi sur les enceintes connectées pour en profiter à la maison. On va parler dans quelques instants d'un sujet sensible, la GPA, avec un témoignage dans l'émission du Grand Matin de ce jeudi avec Benjamin Glaise. Mais avant ça, on parle d'une disparition, celle de l'émission mythique de France Télévisions des chiffres et des lettres. Ça a été annoncé en début de semaine et on en a parlé chez André Bercoff.
Sud Radio, Bercoff dans tous ses états.
Et qui d'entre vous n'a pas entendu ce générique de pendant les années 80? C'était ça, c'était le générique de l'émission, l'une des émissions les plus populaires de la télévision française, des chiffres et des lettres. Je rappelle d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est le plus ancien jeu télévisé de France. Il est né, vous savez, en 1965, ça veut dire presque 60 ans, ORTF, année de l'ORTF, hein. Et voilà. Et puis aujourd'hui, il disparaît. Bon, eh bien, écoutez, hein, les êtres naissent et meurent, et les émissions aussi. Simplement, on peut se demander si cette émission, qui parlait effectivement de chiffres et de lettres, comme son nom l'indique, et qui parlait aussi d'orthographe, bien sûr, parce qu'il fallait, quand on choisissait les mots, les orthographier selon le Larousse, le divin Larousse, et puis le petit Robert, et puis tous les autres. Bernard Cerchilini, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Paris, professeur émérite, vous êtes membre de l'Académie royale, et surtout, vous êtes linguiste. On vous avait reçu pour ce livre merveilleux avec Eric Orsena sur justement les mots émigrés, les mots émissaires, etc. Et je crois que vous avez, Bernard Cerchilini, il faut le rappeler, l'une des dernières émissions, sinon la dernière, à la télévision française. Ou la télévision, oui, à la télévision française, sur TV5.
Eh bien écoutez, je crains de faire la dernière émission consacrée à la langue française dans la télévision publique, pas française en l'occurrence, mais francophone, puisqu'il s'agit de TV5 Monde, une émission quotidienne de 2 minutes intitulée « Merci professeur, je réponds à des questions d'orthographe, de langue, de lexique, ainsi de suite. »
Eh bien écoutez, voilà, vous êtes le dernier des Mohicans, c'est bien, j'espère que vous le serez encore longtemps. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça traduit au-delà des... C'est l'histoire des chiffres et des lettres. Moi, ce qui m'a absolument étonné, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, c'est qu'on se dit, mais il n'y a plus, attends, les télévisions françaises, il y a la télévision de service public, hein, on parle de service public, il n'y aurait pas de la place pour une émission parlant d'orthographe et de mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous allait sentir?
Écoutez, bien sûr qu'il y a de la place pour une émission, mais j'ajouterais qu'il doit y avoir une émission. Regardez, ouais. 60 ans de succès pour une émission consacrée à qu'on appelait sous Jules Ferry, lire, écrire, les lettres, compter, les chiffres. 60 ans d'émissions liées à l'enseignement de base de ce que nous avons acquis à l'école. 60 ans d'émissions consacrées à ce qui nous fonde et nous unit, c'est-à-dire la langue française. 60 ans de jeu sur le mot, sur l'orthographe, cela traduit le rôle de la langue dans notre nation, dans notre façon d'être ensemble, et surtout l'amour de la langue. Il faut qu'il y ait des émissions sur la langue française, et la preuve, c'est, je dis ça sans vanité, elles ont beaucoup de succès, elles durent longtemps, la mienne a 15 ans, et j'arrive au nombre de 1730 émissions, elles sont suivies.
Et oui, elles ont une vie et on voit bien. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'a pas. Alors on a dit oui, c'est passé pendant. Alors ça a été pendant des années. Elle était quotidienne. Ensuite, c'est passé le week-end. Ensuite, on dit. Alors on voit bien le directeur des programmes dit un peu gêné. Oui, c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne rencontrait pas l'audience. Mais une chose quand même, Bernard Cerchilini, faut quand même rappeler que le service public que nous subventionnons par nos impôts, etc., c'est justement pour dire nous échappons à la tyrannie, enfin la tyrannie, en tout cas à la priorité de l'audience. C'est un service public, et qu'est-ce qui est plus service public que l'apprentissage de l'orthographe, que la connaissance de la langue et de l'orthographe, comme vous dites. On a tous joué au Scrabble, hein, et on continue à jouer au Scrabble, c'est un peu ça aussi. Et comment vous expliquez quand même cette espèce, parce que c'est général, il n'y a pas quand même qu'à la télévision, on voit très très bien, on en parle, du pédagogisme, de la diminution, si vous voulez, de la connaissance des mots, on dit maintenant c'est devenu presque basique, alors n'exagérons pas, mais quand même, il y a incontestablement une espèce de, je dirais pas d'effondrement, mais de réduction, de givaroisation des mots. Ça traduit quoi, ça, selon vous ?
Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, répondre à la demande, c'est faire du commerce. Éclairer la demande, c'est le rôle du service public. Et ouais. Donc, le service public doit proposer des émissions. En ce qui me concerne, je rends hommage à Jean-Jacques Ayagon, qui, à l'époque, était le PDG de TV5 France, qui m'a reçu un jour et qui m'a dit « Il faut qu'il y ait sur TV5 une émission de langue française. Ouais. Tu as le fait. » Bon, bah, d'accord. Et donc, je crois qu'il faut service public. Or, étant donné le rôle de la langue dans notre société, dans notre nation, étant donné les besoins d'orthographe, car, et là je réponds à la deuxième partie de votre intervention, il y a en effet moins de respect de l'orthographe, c'est clair, oui. Mais toujours autant de besoins. Cher André, on n'a jamais autant écrit le français depuis qu'il s'est détaché du latin au 9e siècle. On n'a jamais autant besoin de lire et écrire. Et, au 19e siècle, on a appris à lire et écrire à tous les petits français, mais tous les petits français n'utilisaient pas l'écrit. Tout le monde, maintenant, doit écrire, doit lire. Et donc, c'est une sorte de paradoxe, c'est qu'il faut continuer à enseigner une orthographe pour laquelle les gens ont un peu moins de respect, mais qui leur nuit si elle est fautive. Faites une faute d'orthographe dans un curriculum vitae, faites une faute d'orthographe, d'ailleurs on dit une faute, pas une erreur, quand oui. Vous présentez un PowerPoint dans une conférence, vous allez voir.
Et oui, et non seulement cela, on écrit beaucoup de mails aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, on parle d'Internet, etc. Et les mails, il vaut mieux, même dans les mails, ne pas faire de faute d'orthographe. C'est parce que, effectivement, ça travestit. Mais justement, dans ma question, il y avait aussi ça, Bernard Cerchilini. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, justement, est-ce que ça ne traduit pas le fait qu'il n'ait pas songé à la remplacer, qu'on ne songe pas aujourd'hui à faire autre chose ? D'ailleurs, dans les télévisions de service public et même ailleurs, qu'il n'y ait pas et cette espèce de bagarre, de lutte pour la langue française, encore une fois. On a l'impression que, je ne dis pas qu'on a abandonné le terrain, mais que quand même, bon, ce n'est pas la priorité, donc voilà.
Alors, d'abord, la défense de la langue paraît ringarde.
Ah oui, c'est fou ça. Mais d'où ça vient ça, Bernard, d'où ça vient que la défense du français de la France, enfin de la langue française, paraît ringarde ? D'où ça vient ça ? À votre avis ?
Oh, il y a pas de raison. Certains font les yeux doux à l'atlantisme et alors en l'anglo-américain. Disons que peut-être qu'elle a été défendue de façon un peu traditionnelle, un peu puriste, cette langue, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
On va pas défendre le français avec bijoux, choux, cailloux. Je crois personnellement, d'ailleurs, je suis par exemple pour la simplification de l'orthographe. Donc on met un S à bijoux, choux, cailloux, et puis on fait gagner du temps aux enfants. Il y a ça. J'y reviens. Il faut enseigner l'orthographe. L'orthographe est peut-être survalorisée socialement, mais c'est un fait. Il faut l'enseigner. Or, l'orthographe française est complexe. Pour des raisons historiques, elle est complexe, on ne la changera pas. Il y a beaucoup d'homonymes en français et d'homophones qu'il faut distinguer, ainsi de suite. Donc, le service public, par son école publique, par sa télévision et sa radio, doivent aider à l'enseignement, un enseignement plus intelligent, mais il doit aider à l'enseignement d'orthographe. Vous voyez, c'est important. On ne fera pas une simplification phonétique de l'orthographe. On va la maintenir telle qu'elle est pour des tas de raisons. On peut la régler à la limite, mais il faut continuer à enseigner. Or, il se trouve que il y a bien longtemps, j'ai dirigé l'enseignement primaire et j'ai donc rédigé les programmes pour mon ministre, qui était Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Et j'ai bien vu que par rapport à l'école de Jules Ferry, on enseigne beaucoup d'autres choses à l'école. Et c'est bien.
Oui, bien sûr.
La biologie, l'informatique. Et donc la part laissée à l'orthographe a été réduite. Donc il faut bien, d'une part, un enseignement encore plus intelligent, et je rends hommage aux maîtres et aux maîtresses, et d'autre part, d'autres voies. D'autres voies, il faudrait...
Mais les autres voies, Bernard Cerchini, c'est bien ça. Les autres voies, ce serait justement, comme la vôtre, mais aussi, comme les chiffres et les lettres, une bonne émission à la télévision qui parlerait, qui ferait aimer et encourager la langue et l'orthographe.
Ben, je vous remercie, mais j'ai fait beaucoup d'émissions sur l'accord du participe passé.
Ben
avec
oui.
Le sourire, j'ai fait une émission intitulée les femmes qui se sont succédées se sont souvent haïes. J'ai l'accord avec les pronominaux. On peut, avec le sourire, expliquer ces points qui sont importants et qui sont délicats. Et donc, là, c'est vraiment... La République, pour l'angle français, elle a pour mission d'enseigner le français. Le français, c'est ce qui fait la France, disait Michelet. Elle doit utiliser tous les moyens, un enseignement plus rationnel, l'école, bien sûr, l'école. Et on a cessé de grignoter le nombre d'heures consacrées au français, je
bien
le regrette.
Mmh.
Et puis, d'autres voies, et l'audiovisuel... C'est fondamental. On peut faire des émissions plaisantes, agréables, pleines d'agréments, enseignent l'orthographe grammaticale. Les accords, par exemple, c'est fondamental. Distinguer l'infinitif du participe passé, vous devez le faire, sinon votre texte sont incompréhensibles.
Bien sûr. Et c'est pour ça que vraiment, vraiment, que le service public y pense. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et j'aimerais que si je dis Ariane, ma sœur, de quel amour blessé, vous mourûtes au bord, vous fûtes laissée, eh bien que l'orthographe de laissée soit enseignée. Eh oui. Merci Bernard, c'est le cas de le dire. Merci Bernard Cerchini. Voilà.
Le meilleur de Sud Radio avec Berkov dans tous ses états. Il reviendra lundi à partir de midi.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Et évidemment, le meilleur de Berkov dans tous ses états, c'est à retrouver sur sudradio.fr et sur notre chaîne YouTube. À suivre, un témoignage fort, celui d'un parent d'enfant né sous GPA, qui était à notre micro chez Benjamin Glaise pour réagir à la déclaration du président de la République qui a à nouveau répété son opposition à cette inscription dans la loi. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel, dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio Saint-Laurent-du-Var.
97.9.
Sud Radio.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont à 2,29€.
Les abricots?
Eh oui, dès demain, ils font la barquette de 500 grammes à 2,29€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous, hein.
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 1,83€ la barquette de 500 grammes.
Va pas à l'abri, mon coco.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 4,58€ le kilo, 3,66€ avec l'application Lidl Plus. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Le week-end prolongé continue avec Sud Radio et les meilleurs moments de cette semaine, avec une disparition à la télévision, mais surtout dans le monde de la littérature. Bernard Pivot nous a quittés et forcément, eh bien, ça a fait réagir Valérie Expert et Gilles Ganzman, qui en ont profité pour lui rendre hommage en compagnie d'un libraire très connu dans le tube cathodique. Je parle de Gérard Collard. On l'écoutera dans quelques instants, juste après. Eh bien, ce témoignage fort, c'était dans Le Grand Matin, cette semaine avec Benjamin Glaise, un parent d'enfant né sous GPA, qui nous a raconté son parcours, pourquoi avoir fait ce choix. C'était jeudi sur Sud Radio.
Emmanuel Macron qui réitère donc son opposition à la GPA, la gestation pour autrui, qui reste interdite en France. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, c'est bon, on vous a trouvé. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, Mathieu. Vous avez décidé avec votre femme d'avoir recours à la GPA malgré son interdiction en France. Combien avez-vous d'enfants nés par GPA, Mathieu ?
Eh ben, on n'en a pas beaucoup, parce que voilà, on a eu deux, on a deux filles.
Deux filles, de quel âge ?
Alors la première a 10 ans et la deuxième a 4 ans.
10 ans et 4 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, Mathieu, vous avez commencé à envisager la GPA comme solution pour avoir des enfants ? Vous avez des difficultés à en avoir peut-être avec votre femme ?
Nous, en fait, c'était assez clair qu'on avait une grosse difficulté dès le départ, puisque ma femme est née sans utérus. Donc voilà, donc ça, c'était assez clair à ce niveau-là. Donc ça permet vraiment de mettre les choses à plat. Et donc on n'avait pas forcément 50 solutions devant nous. Et comme on entend beaucoup, on entend parler en France d'adoption, donc on s'est lancé un petit peu dans cette démarche-là et on a vite compris que c'était pas aussi simple que ça.
Que le temps d'attente était vraiment... Il y a beaucoup d'obstacles, plus le temps d'attente.
En fait, il y a un temps d'attente énorme et en fait, très peu d'enfants finalement adoptables, et tant mieux parce que les pays gèrent souvent ça maintenant, donc... au niveau interne, et donc en fait, il y avait un temps d'attente énorme. On s'est dit, 7-8 ans sans garantie. On a commencé un petit peu à fouiller ailleurs, et on avait déjà un tout petit peu entendu parler de la GPA, et c'est un peu comme ça, de façon naturelle, qu'on est parti un petit peu sur cette deuxième piste. Quoi.
Vous aviez quel âge, Mathieu, lorsque vous avez décidé de recourir à cette GPA ?
Du coup, on était, entre guillemets, assez jeunes, un petit peu dans l'âge moyen, on va dire, du Français qui veut avoir un premier enfant. On était un petit peu, avant la trentaine, on va dire, autour de 27-28 ans.
Racontez-nous comment ça s'est passé concrètement, parce qu'on entend beaucoup parler de la GPA, on a les pros, les anti, mais c'est vrai que c'est important aussi de revenir aux bases, au concret, comment ça se passe. Il a fallu d'abord trouver une mère porteuse dans un pays étranger où c'est autorisé.
Oui, tout à fait. En fait, nous, en aucun cas, on voulait mettre en danger notre futur enfant en faisant n'importe quoi. Donc, on s'est beaucoup renseigné avant. On est passé notamment par des couples qui avaient déjà fait ce parcours, notamment par l'association Clara, qui est assez connue à ce niveau-là. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a pris les premiers contacts de familles, en fait, qui avaient déjà fait ce parcours. Donc, ça paraissait un parcours très compliqué, insurmontable par rapport à notre âge. Mais après, on a découvert comme des familles qui nous ressemblaient, entre guillemets, simples, avec un métier simple. Et on s'est dit, on va peut-être essayer de se lancer là-dedans. Et puis, en fait, on se rend compte que, notamment dans les pays où c'est légalisé, que depuis très longtemps, que ce parcours fait partie vraiment de leurs mœurs. Et donc, c'est très, très éloigné, justement, de ce qu'on peut dire en France. Donc, voilà.
Vous avez fait appel donc à une mère porteuse aux États-Unis.
Tout à fait, oui.
Comment ça se passe, la rencontre, la mise en relation ?
Alors en fait, c'est assez simple là-bas. En fait, il y a des agences qui régulent un petit peu tout ça là-bas. Et en fait, c'est une rencontre. En fait, ça veut dire que on se choisit mutuellement. Ça veut dire que nous, en fait, au départ, on décrit notre désir, notre profil, et la gestatrice nous choisit. Et après, nous, entre guillemets, on l'a choisi aussi dans le sens où on se rencontre, on échange et on voit si le courant passe, en fait. Mais avant tout, en fait, c'est elle qui nous choisit. Donc, c'est pas, comme on entend parfois sur un catalogue ou sur Internet, ou des femmes miséreuses. Il y a des choses qui sont dites qui sont complètement fausses. Quoi.
Vous n'avez pas parlé néanmoins de quelque chose, Mathieu, dans ce que vous dites. Oui. Il y a aussi la question du prix. Entre guillemets, ça coûte combien d'avoir recours à une mère porteuse aux États-Unis aujourd'hui ?
Ah bah aux États-Unis, donc c'est en fait voilà, on faut comparer les choses qu'on pense. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout ce qui est médical n'est pas gratuit puisqu'on n'a pas le même système qu'en France. Donc ça veut dire qu'en fait l'infertilité là-bas rentre dans ce cadre-là où de toute façon aux États-Unis, voilà, tout ce qui est médical est payant. En France, on a l'impression que c'est pas payant, mais en fait voilà, c'est payé en fait par notre pot commun. Donc voilà, faut comparer ce qui est comparable. Nous, justement, c'est pour ça qu'on se bat pour que en fait ça puisse être légal en France pour éviter justement que qu'il y ait des sommes à payer exorbitantes et que n'importe qui puisse le faire lors de cas d'infertilité. Quoi.
Sans parler de votre cas personnel, ça monte à combien d'euros ? C'est juste pour avoir une idée, en gros, quoi.
Alors, ça dépend aux États-Unis ou au Canada, ça dépend des États, ça dépend après du parcours, des difficultés, mais voilà. Nous, c'était de l'ordre, en fait, de 100 000 euros. Parfois, c'est plus, voilà.
Ouais, c'est des sommes très, très importantes. La GPA, voilà, qui reste, en tout cas, aujourd'hui, interdite. Vous dites que vous êtes favorable, que vous demandez qu'elle soit autorisée, légalisée. Vous avez entendu, vous avez lu Emmanuel Macron, hein, qui a redit, lui, son opposition à la GPA hier. Je n'y suis pas favorable, a-t-il expliqué. Elle n'est pas compatible, je reprends ces mots, avec la dignité des femmes. C'est une forme de marchandisation de leur corps. Comment vous réagissez à ces propos, Mathieu ? Ça vous révolte ? Ça vous fait de la peine ?
C'est surtout en fait que les gens ne connaissent pas forcément en fait la GPA, puisque ça ne se passe pas du tout comme ça dans le concret. Nous en fait là on découvre un peu ce débat qui ressort, parce que en fait là on revient justement d'aller voir en fait nos deux gestatrices aux États-Unis pendant les vacances là, et quand on en discute là-bas, en fait ils ne comprennent pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a aucune marchandisation, c'est-à-dire qu'elles le font vraiment pour aider les gens, c'est complètement farfelu de penser que c'est une marchandisation.
Mais vous comprenez que pour certains, ce soit une inquiétude, en tout cas, qu'on risque, qu'il y a ce risque-là potentiel, en tout cas, d'arriver à une forme de marchandisation. Vous l'envisagez, vous le comprenez ou pas ?
On comprend qu'il y ait des craintes, parce qu'il y en a qui n'aiment pas et voilà, qui pensent que c'est vraiment compliqué, mais voilà, c'est souvent par méconnaissance, puisqu'en fait, c'est comme assez simple à comprendre, dans le sens que c'est vraiment des personnes qui cherchent à aider, qui sont dans le don de soi. Enfin voilà, c'est nous, par exemple, notre première gestatrice, lorsqu'elle était enceinte de notre premier enfant, elle avait déjà 3 enfants, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces personnes-là doivent déjà en fait avoir des enfants aux États-Unis.
D'accord.
Alors voilà, et quand elle était enceinte de notre premier enfant, elle était aussi famille d'accueil. Donc ça veut dire qu'en fait c'est des personnes qui sont dans le don de soi. Alors après peut-être que des personnes en fait ne sont pas prêtes à le faire, et c'est normal, c'est comme quelque chose de compliqué. Mais voilà, faut voir que nous dans notre entourage, il y a plusieurs personnes qui auraient été prêtes à le faire sans marchandisation. C'est-à-dire que.
Mais ça veut dire que si on l'autorise en France, ce que vous dites, hein, c'est que il faut que ça soit encadré, quoi.
Encadré comme dans les autres cas en fait d'infertilité, quoi, avec notre cadre français. Et là il n'y aurait pas forcément justement besoin d'argent, ce serait vraiment dans le cadre d'infertilité classique, quoi.
L'Europe qui a pris une décision importante, hein, concernant la GPA, ou plutôt l'exploitation de la GPA, c'est important de le préciser, puisque souvent ça a été assez mal rapporté, justement, cette décision. Donc c'est l'exploitation de la GPA qui a été visée. Que dit l'Union européenne ? Elle dit que l'exploitation de la GPA est reconnue comme un crime, au même titre que l'esclavage ou la prostitution forcée. Là-dessus, vous partagez cette idée, voilà, quand on parle d'exploitation, en tout cas de la GPA, c'est peut-être mieux dit comme ça ? Sur les inquiétudes.
Ce qu'il faut différencier, en fait, c'est les pays où il y a un cadre et où ça se passe correctement, et après les pays où il y a des dérives. C'est-à-dire que c'est comme dans tout système. Ou dans le don d'organes, c'est pareil. On sait très bien qu'il y a des dérives dans certains pays, et forcément, dès qu'il y a une histoire d'argent, il y a des dérives. Et donc là, c'est des circuits donc mafieux. Et donc là, faut vraiment différencier les choses. Et justement, c'est pour ça qu'il faut un cadre légal en France pour éviter ces dérives-là. Et s'il y a un cadre légal en France, il y aura plus ce problème pour les couples français. Ça veut dire que certains en fait partent dans des filières qui sont complètement donc compliqué, quoi.
Sans doute, peut-être une question un peu bête, Mathieu, mais les deux mères porteuses auxquelles vous avez fait appel, est-ce qu'elles ont, d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport au droit américain, des droits sur les enfants qu'elles ont portés ?
C'est là en fait où il y a pas de connaissance du sujet, c'est-à-dire qu'en fait,
c'est important on n'est pas forcément au courant de cela. Voilà.
En fait, ça se fait depuis très longtemps, et en fait, tout ce qui est filiation, etc. Donc, c'est déjà défini avant la naissance. C'est vraiment clair. Ça veut dire que on est les parents en fait directement. En fait, voilà. elle a aucun droit sur nos enfants. Et voilà, et donc, non, c'est vraiment clair là-bas, quoi.
Comment ça s'est passé pendant la grossesse et au moment de la naissance, là aussi, c'est encadré? Comment vous avez fait à ce niveau-là?
En fait, c'est vraiment très clair, c'est-à-dire que on peut assister à la naissance si jamais donc la gestatrice est d'accord. Et par exemple, moi, ma femme a assisté aux deux naissances. Mm-hmm. Et voilà, c'était un moment de partage incroyable. Une anecdote là-dessus aussi, c'est que par exemple, notre première gestatrice, elle a jamais pleuré en fait quand elle a accouché pour ses propres enfants, même si elle était très très heureuse. Mais là, de nous voir émue sur le premier accouchement, elle en a pleuré. Et voilà, elle dit, mais c'est incroyable comme moment, quoi. Donc voilà, je pense qu'en fait, on diabolise beaucoup, alors qu'en fait, voilà, c'est vraiment des personnes qui le font pour donner aux autres.
Benjamin Glaise dans le Grand Matin, Sud Radio, avec ce témoignage à retrouver en intégralité sur sudradio.fr.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et notez que demain, c'est Patrick Roger qui reprendra les commandes du Grand Matin à partir de 6h30. Dans quelques instants, on rend hommage à une personnalité très forte du monde de la télévision, mais aussi de la littérature. Il a poussé de nombreuses personnes à lire des livres, tout simplement s'améliorer en orthographe. On parle de Bernard Pivot qui nous a quittés en début de semaine. Hommage en compagnie de Valérie Expert, Gilles Gansman et du libraire Gérard Collard.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.
Quand on ne se fait pas entendre, nous, agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le monsieur le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit.
Sud Radio, parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Est-ce qu'on marche sur la tête dans la préparation des JO de Paris? La répétition de la cérémonie d'ouverture est reportée à cause de la crue de la Seine, parce que le niveau du fleuve est trop haut pour assurer normalement le passage des ponts. Après la baisse de moitié de la jauge des spectateurs et beaucoup de remises en cause, on ne peut pas dire qu'on marche sur l'eau pour la préparation de ces JO de Paris.
Sud Radio, parlons vrai.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+.
Sud Radio.
Calcul d'un nouvel itinéraire. Arrivée prévue dans 20 minutes. Ah non, vous êtes arrivé. Désolé, ce télépéage a faussé mes données. Comme quoi, dans la vie, on croit des choses et puis en fait, non.
Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2€ par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
17h56. 17h58.
L'enfer, le périph.
18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Tu es un chercheur de talent passionné, un as de la relation commerciale ou un leader en devenir? Arrête tout. Le groupe Connect recrute des commerciaux, des chargés de recrutement ou encore des responsables d'agence. Travailler avec le groupe Connect, c'est appartenir à un groupe en constante évolution, s'assurer une carrière réussie, mais aussi promouvoir la diversité et l'égalité des chances. Pour rejoindre le groupe Connect et ses 34 agences partout en France, envoie ton CV sur recrutement@connect.fr.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Le petit Marseillais fête ses 40 ans. 40 ans de... 40 ans de... 40 ans de... Depuis 40 ans, le petit Marseillais ensoleille votre quotidien avec ses gels douches qui sentent bon la Provence. 92% d'ingrédients d'origine naturelle et des flacons entièrement recyclables. Le petit Marseillais, 40 ans de soleil sous la douche. Et en ce moment, profitez de nos offres anniversaires en magasin. Offre disponible dans les magasins participants.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et sur Sud Radio, on profite jusqu'au bout de ce week-end prolongé avec les meilleurs moments de l'antenne de Sud Radio. Et cet hommage, hein, forcément, on était obligé de le faire à une personnalité marquante du petit écran, mais aussi de la littérature. On a tous vécu forcément des moments autour de Bernard Pivot, autour de sa plume, autour de sa passion pour les livres et pour l'écriture. Et forcément, eh bien, c'était l'occasion pour Valérie Expert et Gilles Ganzon de lui rendre hommage en compagnie d'un grand lecteur, un libraire, Gérard Collard. C'était ce mardi dans Sud Radio Média.
Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, ben, c'est Gérard Collard, notre libraire préféré. Bonjour Gérard.
Bonjour
vous
Valérie.
Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la griffe noire. Comment ne pas vous faire réagir au décès de Bernard Pivot? Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, Bernard Pivot?
Ah bah c'est le premier qui m'a fait aimer les livres, qui m'a donné envie de, bah d'être libraire quelque part, parce que jusque-là, les émissions littéraires, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas faites pour moi, et il a entrebâillé la littérature à un autre monde plus populaire, avec des mots simples que je comprenais, et puis il y avait de la gourmandise dans ce qu'il disait, et bon, c'est toute une époque, quoi. Ça, pour moi, ça a été quelqu'un de très important.
Oui, gourmandise, c'était son mot préféré, paraît-il.
Oui,
donc,
c'est vrai, ça se ressent, et puis gourmandise était allié aussi à la nourriture, il était gourmand de la vie, hein. C'est un peu des caricatures, ça, des clichés, mais c'est exactement ça, on ressentait ça dans cet homme, il aimait vivre, et on sentait que le livre faisait partie de son amour de la vie, quoi.
Qu'est-ce que ça avait de particulier, Apostrophe, comme émission? En quoi c'était révolutionnaire à l'époque?
Bah parce que déjà, on comprenait ce qu'il disait. Il remettait à niveau les gens qui parlaient avec lui, les auteurs qui partaient des fois dans des phrases pas possibles, et il les remettait à niveau. C'était un très bon intervieweur, très bon vulgarisateur. Puis il faut dire aussi que c'était une époque où 5 millions de personnes regardaient cette émission parce qu'il n'y avait que 3 chaînes, quoi. Donc ça, c'était une époque très particulière.
Ouais. Vous l'aviez rencontré?
Oui, alors je veux dire que quand quelqu'un meurt, il faut toujours dire du...
Vous avez un souci avec lui?
Oui, j'ai une anecdote parce que j'étais pas fan de Marguerite Duras, il était venu dans ma librairie et sur une étiquette j'avais mis les écrivains boivent, les lecteurs trinquent, et là ça l'avait offusqué, il m'avait dit mais vous savez monsieur, elle vend énormément de livres dans le monde, et je lui avais dit mais Barbara Cartland encore plus, donc voilà, ça avait été un peu glacé. Mais ça ne retire rien à l'admiration que j'avais pour et l'importance pour, qu'il a eue pour le livre. Quoi.
Pour le livre, oui, absolument.
Est-ce qu'il y avait une influence à l'époque, et est-ce que ça existe toujours? Est-ce que la télévision... Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a une influence, et est-ce que la télévision fait vendre des livres ou pas? Est-ce que passer chez Pivot...
Ça n'a rien à voir, c'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir, parce que déjà c'était en prime time, en plus il n'y avait pas beaucoup de chaînes, il avait un côté star, donc tous les gens regardaient ça le soir, hein. C'était vraiment le rendez-vous.
Mais est-ce que ça fait vendre des livres, une émission de télé à l'époque, maintenant, est-ce que ça faisait vendre, et est-ce que maintenant ça...
Oui. Ah oui, ça n'a rien à voir.
Moi, j'ai le souvenir d'une émission avec le linguiste Claude Agege. Il s'avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce que Claude Agege est un type, il est toujours brillant, toujours vivant, brillantissime, drôle, extrêmement pertinent. Il avait fait un show incroyable à Apostrophe. Tout le monde s'était précipité pour acheter ses livres qui étaient totalement illisibles. Et ça avait été un best-seller incroyable. Donc
J'avais toujours rêvé d'être une table de nuit pour voir la tête des gens au bout de combien de pages ils abandonnaient. Il y en avait un autre comme ça qui était Montaillou, village occitan. Alors oui, ça c'était absolument extraordinaire. Et les gens revenaient un peu bêta en disant je crois que je ne suis pas à la hauteur. Mais en fait c'était pas des livres qui étaient faits pour eux, c'était des livres d'universitaires. C'est un peu le risque, on en est tous là, c'est un peu le risque quand on fait le show, quoi.
Oui, quand il y a le show.
Mais en général c'était, ils se trompaient très peu. C'était un raz-de-marée. Maintenant on peut plus comparer ça, il y a 30 chaînes, les émissions littéraires sont en, je sais pas, et puis en plus vous savez, Pivot c'est comme De Gaulle, tout le monde se dit, c'est-à-dire que tout le monde dit oui, Pivot, mais là on revoit, c'était Pivot, il a un peu supprimé le quant à soi, et là maintenant on revient dans les émissions littéraires, on revient à ce quant à soi très parisien, il faudrait qu'on revienne quand même, on réécoute ces émissions et qu'on se redise, faut peut-être rechanger encore la façon dont on parle des livres.
Ouais, avec des choses plus populaires et Je voyais un extrait hier où il y avait Cabu qui était invité. Gilles nous a passé tout à l'heure dans le zapping un extrait où il y avait Serge Gainsbourg. Enfin, il y avait aussi un mélange. On ne se recevait pas entre soi, entre intellectuels, où on s'écoutait parler. Il y avait des débats, en fait, aussi. Il y avait beaucoup de débats d'idées sur ces plateaux.
Les gens n'étaient pas d'accord, mais ils ne s'insultaient pas forcément pour ça, quoi. Donc, on acceptait la contradiction de l'autre. Donc, c'était... Puis bon, il faut dire aussi, on va être honnête, la qualité des auteurs qu'ils recevaient n'est pas forcément peut-être la qualité des auteurs qu'on reçoit maintenant.
Non, voilà, mais c'est
un peu méchant.
Non, ouais. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait aussi que, alors je l'ai pas passé en interview, mais on voyait bien aussi que c'était des gens un peu torturés, les écrivains. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens d'Apostrophe aussi, c'était de voir le visage de ceux qui écrivent et qui pour qui c'est une vraie difficulté parfois d'écrire ou compliqué. Bon, évidemment, je n'irai pas sur notre ami alcoolique aussi qui a fonctionné, mais ça faisait partie aussi des écrivains. C'est compliqué d'être écrivain, en fait.
Oui, c'est très compliqué. Mais moi, ce que je retiens de Pivot aussi, c'est qu'il nous a fait découvrir des gens qui n'étaient pas forcément connus. C'est-à-dire que, contrairement à maintenant, on va vraiment dans la facilité, où il y a beaucoup de buzz, de médias, dans la communication. Il nous a fait découvrir... Moi, j'ai découvert des gens, là, ça me vient pas à l'idée, mais que j'aurais jamais lu s'ils ne les avaient pas invités. C'est surtout de la manière dont ils les faisaient parler. C'est-à-dire qu'on se disait, ces gens, ils sont comme nous, on est capable de les comprendre, alors que maintenant, parfois, on se dit c'est pas pour nous, quoi. Donc ça, c'était un vulgarisateur, hein. C'est-à-dire c'était un passeur d'émotions avec des mots simples, et ça, c'est vraiment du génie, quoi.
Oui.
Et puis on peut parler également de l'orthographe et la dictée. Je sais pour vous, Gérard, on se fréquente un peu, on se connaît un petit peu, et l'orthographe est très important pour vous. On l'a perdu, ça, avec les réseaux sociaux.
Enfin, oui, moi aussi.
Oui, oui, Gérard, moi aussi. Vous le connaissez mal, oui, Gérard, hein, je pense.
Il fait
pas mal de fautes, oui.
Mais comme vous
c'est pour ça qu'il rigole.
Je pense qu'aussi c'est le combat, mais le combat il est aussi alors là c'est autre chose, c'est dans l'éducation, c'est dans le système scolaire et tout. Je veux dire que on a été un peu victime. Moi j'ai commencé à être victime d'un système d'une façon d'apprendre l'orthographe et qui s'est amplifié maintenant et on arrive à des catastrophes. Mais les enfants sont pas forcément responsables de ça. Puis il y a aussi que moins on lit, moins l'orthographe elle suit. Hein. Ça c'est tout un truc. Mais ouais. Ça c'est un autre problème. Hein.
Ouais, tout le monde lui rend hommage ce matin, encore une fois, à juste raison. Néanmoins, je ne pense pas que si son émission existait aujourd'hui, il ferait autant d'audience. C'est-à-dire que le livre a quand même perdu beaucoup, beaucoup d'attrait.
Oui, mais je suis pas. Enfin, ça, oui, ça a beaucoup d'attrait, mais c'est parce que les médias ont donné de moins en moins de place aux livres, et puis les gens qui en parlent des livres dans les médias souvent sont des gens qui sont. On en revient à ça. Oui, on reçoit ce que Pivot n'était pas ça. Oui. C'est-à-dire que Pivot, on avait l'impression qu'on pouvait le croiser au café du coin, au resto et tout. Et ceux qui parlent des livres, enfin pas tous, hein, mais souvent, on a l'impression que bon, et soit ils parlent pour d'autres écrivains qui sortent de l'académie, ou que bon, on va les croiser à la closerie des là, quoi, mais pas chez mon café, dans mon café à côté de chez moi.
Le meilleur de Sud Radio Média, l'émission qui fera son grand retour ce lundi à partir de 10h sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Et pour conclure ce week-end prolongé en fanfare, et bien dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Judith Belair. C'est excellent, comme chaque dimanche entre 19h et 20h, avant de retrouver les équipes du rugby. Hein. Alexandre Priam, notamment, au cœur de la mêlée entre 20h et 21h. Passez donc une bonne fin de week-end, un bon dimanche, et puis on se dit à la semaine prochaine, même heure, même endroit, ici sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ils sont à 2,29€.
Les abricots ?
Eh oui, dès demain, ils font la barquette de 500 grammes à 2,29€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous, hein.
Et avec l'appli Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 1,83€ la barquette de 500 grammes.
Patate à l'abri, mon coco.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 4,58€ le kilo, 3,66€ avec l'appli Lidl Plus, catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sud Radio Corté.
99.6.
Sud Radio.
Hey, regarde, la voisine est déjà prête.
Ah ouais?
Mais prête pour quoi ?
Ben, pour les fortes chaleurs.
Elle a acheté un maillot ?
Non, elle a installé des stores.
Ah, bonne idée ! Il faudrait qu'on en mette aussi devant nos fenêtres.
Eh oui, les fortes chaleurs vont arriver plus tôt et durer plus longtemps. Alors pour vous protéger, préparez-vous dès maintenant en installant des stores par exemple. Découvrez plus de gestes simples sur vivreaveclachaleur.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 900 km d'autonomie. En ce moment, Renault Clio E-Tech Full Hybrid est à partir de 210 euros par mois.
Clio Evolution E-Tech Full Hybrid 145 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 3 000 euros. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Alors Chloé, ce nouveau travail ?
Génial Cerise, mais j'ai beaucoup plus de trajets maintenant et mon fils est obligé de rentrer seul de l'école. Ça m'inquiète.
Grâce au système de télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient dès son retour à la maison.
Ça c'est rassurant Cerise.
Oui, et en ce moment, Groupama vous offre les frais d'installation. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à conditions, variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr.
Dans un instant, Sud Radio, c'est excellent.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ?
Si
Baila, baila, hay que bailar de nuevo y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros y mataremos otros.
Venga, venga, baila y mataré los otros.